lecture introductive de ce message, l'évangile de Jean au chapitre 17. On va lire ensemble les 6 premiers versets. Pour commencer, l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. J'ai fait connaître ton nom. Alléluia. Et puis dans le premier livre de la Bible, donc la Genèse, au chapitre 14, une seconde lecture, Genèse 14, et à partir du verset 17. C'est un épisode de la vie d'Abraham, Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes. » Et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Et le début du chapitre 15, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Amen. Gloire à Dieu. Quelle vie extraordinaire a eu ce patriarche, le père des croyants, Abraham, ce Chaldéen à qui Dieu s'est révélé, voilà, et qui est devenu, eh bien, le premier maillon qui a permis, eh bien, toute une génération de croyants. C'est le père des croyants. Un témoignage remarquable est donné à son sujet. La Bible nous dit que, espérant contre toute espérance, il crut au Seigneur, etc. Quelle vie il a eue avec des temps très très forts, et ce que nous venons de lire ici fait partie d'une expérience qui va marquer sa vie d'une manière définitive. Si on avait lu dès le commencement du chapitre 14, eh bien on aurait compris qu'il y a là tout un contexte de guerre. Il y a le roi de Sodome, de Gomorre, il y a le roi Kedorlaomer, il y a plusieurs rois qui se concertent, qui ont des, il y a deux coalitions, deux armées qui s'affrontent, etc. Le roi Kedorlaomer prend le dessus sur le roi de Sodome, il entraîne avec lui toutes les richesses de Sodome et de la région, et il entraîne avec lui notamment Lot, le neveu d'Abraham. Et quand Abraham, qui est paisiblement installé sous les chênes de Mamré, entend la nouvelle que son neveu Lot a été emmené captif, vite, il réunit 318 de ses plus vaillants serviteurs. La Bible nous dit des serviteurs qui sont nés dans la maison, donc ils avaient un attachement particulier pour Abraham. Il les réunit, et 318 serviteurs, c'est quoi, hein, face à une armée innombrable? Eh bien, malgré cela, avec la grâce de Dieu, l'assistance du Seigneur, il triomphe, il a la victoire, il bat les armées ennemies, il rapporte toutes les richesses, il les récupère toutes, et il ramène surtout avec lui son neveu Lot et le clan de Lot, la famille, les serviteurs, etc. Et Abraham est là maintenant sur un retour triomphal, il bénit Dieu, il loue le Seigneur, et la Bible nous dit, et c'est là que nous avons commencé notre lecture, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, que je qualifierais de type du diable, de l'adversaire, de Satan, le roi de Sodome ne renonce pas. Il est tenace, ainsi qu'il s'était éloigné de Jésus après les tentations infructueuses qu'il avait initiées. La Bible nous dit que le diable s'éloigna de Jésus en attendant une occasion favorable. Oui, le roi de Sodome a eu un revers. Abraham lui a récupéré les richesses volées, et Lot et les siens, mais alors qu'Abraham revient, plein de louanges à l'Éternel, le roi de Sodome se met en mouvement, et nous l'avons lu, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Et ce qui se passe, c'est que, avant que le roi de Sodome n'arrive à la hauteur d'Abraham, un autre roi, Melchisédek, le roi de Salem, qui voit du ciel ce qui est en train de se tramer, intervient, et avant que Abraham n'ait à affronter le roi de Sodome, Melchisédek vient, et Abraham vit une expérience merveilleuse, magnifique. Cette expérience va lui permettre de connaître Dieu mieux. Une expérience indispensable. J'aimerais dire ici, en ouvrant une parenthèse, que la meilleure manière de se préparer de rencontrer le roi de Sodome, c'est d'abord de rencontrer Melchisédek, le roi de paix, qui est déjà une préfiguration de Jésus. Si tu rencontres Jésus, au cours de ta rencontre avec Jésus, tu vas être béni. On va le voir tout à l'heure. Tu vas recevoir. Tu vas connaître le Seigneur mieux. Tu vas recevoir un équipement qui va te préparer à rencontrer l'adversité. Quand j'ai rencontré d'abord Jésus, je suis prêt à rencontrer l'ennemi. Si je zappe et si je court-circuite mes rencontres quotidiennes avec mon Dieu, je vais me présenter faible, démuni, peu ou mal préparé pour refouler l'adversaire. C'est un principe spirituel toujours aussi valable pour les croyants aujourd'hui. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ça nous rappelle quelque chose. Ça annonce un événement majeur, le sacrifice vainqueur de Jésus à Golgotha. Melchisédek vient avec du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Jésus est souverain sacrificateur par excellence. Alléluia. Pour toujours. Pour toujours. Et la Bible nous dit, il bénit Abraham. J'ai besoin d'être béni par le Seigneur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du réalisme. J'ai besoin, tu as besoin d'être béni par le Seigneur. Non pas pour une jouissance égoïste et improductive, mais j'ai besoin d'être béni pour être ensuite un instrument armé pour bénir les autres. Amen. Et pour triompher des subtilités du rusé. Melchisédek bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Dans la formulation de la bénédiction, Melchisédek emploie un nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Jean 17. Jésus a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Ton nom. Il dira aussi, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, pas par une théologie académique dans un institut agréé, mais connaître Dieu par la révélation de Dieu qui se produit lorsque je le rencontre, connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, eh bien, il faut connaître son nom. Amen. Son nom. Voilà. Le futur père de Samson va dire, quel est ton nom? Il veut savoir son nom. Hein? Et Moïse, avec le buisson ardent, dit au Seigneur, mais tu m'envoies libérer les Hébreux de la férule égyptienne, mais ils vont, je les entends d'avance, hein, ils vont me dire, comment il s'appelle le nom? Quel est le Dieu qui t'envoie? Donne-nous son nom! Et Dieu exauce cette demande. Et Dieu lui dit, mais mon nom, en fait, je m'appelle, je suis. Le tétragramme hébraïque, YHWH, que l'on traduit par Yahvé. Alors tu leur diras, le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Un nom. Un nom, c'est une personne. Amen. Quelquefois, on parle avec des incrédules, parfois avec des pointes de moquerie, et on leur demande, est-ce que vous êtes croyant? Et ils nous répondent, oui, je crois qu'il y a quelqu'un, quelque chose, quelque part. Mais on est bien avancé avec ça. Hein. Mais Dieu veut nous amener beaucoup plus loin, parce que là, on ne va pas très loin. Hein. Dieu veut nous révéler son nom. Et en nous révélant son nom, il nous révèle sa personne. Les Athéniens avaient cette problématique, puisqu'ils ont érigé une stèle à un Dieu inconnu. Et Paul va dire, eh bien, ce Dieu que vous ne connaissez pas, il m'a envoyé vous révéler qui il est. Et dès que je découvre son nom, je découvre sa personne. Et en découvrant sa personne, je vis une relation personnelle. Personnelle. Je peux difficilement avoir une relation avec un objet, avec quelque chose. Je sais que les traditions obscurantistes de la religion, de la superstition, ont conduit beaucoup de personnes à se prosterner devant une petite statue, une médaille, un objet, une sculpture. Mais on ne peut pas avoir une communion avec un bout de bois, même s'il est sculpté et verni. On ne peut pas avoir une communion avec une médaille, une image, une photo, que sais-je. Mais je peux avoir une communion avec une personne. Et pour avoir une communion avec une personne, il faut que je connaisse son nom, son identité, qui elle est. Alors Dieu va nous révéler son nom. J'ai fait connaître ton nom. Le nom de Dieu dans les Saintes Écritures va déclencher dans notre vie une découverte, une révélation. D'ignorant, nous entrons maintenant dans la connaissance. Nous le connaissons. Gloire à Dieu. Nous connaissons qui il est. Le nom de Dieu. Je le comparerais à un diamant aux multiples facettes. Vous prenez un diamant. Allez, sortez votre diamant là. Prenez un diamant. Mais c'est magnifique. Chaque facette du même diamant va vous refléter des éclats, des couleurs, des nuances très différentes. C'est quelle richesse, ouais. Et le nom de Dieu, c'est un diamant à plusieurs facettes. C'est pourquoi je suis un peu prudent quand on dit, par exemple, « Je connais le Seigneur ». Oui, je connais le Seigneur, mais en fait, j'en connais quelques facettes. Mais je peux encore découvrir le Seigneur. D'ailleurs, je crois que, même si j'ai un demi-siècle de conversion, je dois encore m'émerveiller de Jésus. Oui ou non? Est-ce que le Seigneur vous émerveille encore? Amen. Je dois, oh, dire, oh là, j'ai vécu quelque chose que je n'avais pas encore vécu, que tu es merveilleux, Seigneur. Et notre vie spirituelle doit toujours aller d'émerveillement en émerveillement. C'est un diamant aux multiples facettes. D'ailleurs, le nom de Dieu dans toute l'Écriture nous est présenté et formulé avec justement des nuances, telles ces facettes du diamant. Par exemple, vous connaissez le Yahvé Jiré. Yahvé Jiré. C'est l'Éternel pourvoira. C'est une facette. Est-ce que tu connais le Dieu qui pourvoit? Tu le connais vraiment? Si on le connaissait, moi je me prêche aussi, hein, vraiment. Si je connaissais vraiment l'Éternel qui pourvoit, mais l'inquiétude n'aurait jamais de prise dans mes pensées, puisque je sais qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Alors, comment je vais me questionner sur le comment m'en sortir? Si je suis enraciné dans cette connaissance personnelle, il pourvoit. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu, connaissant tes besoins, pourvoit à tes besoins. Et pas seulement sur le plan pécuniaire. Oui, mais pas que. Dans tous les déficits qui te concernent, il pourvoit. Déficit de force physique, il peut pas te donner des forces nouvelles. Il pourvoit en force, gloire à Dieu. Déficit émotionnel, tu es en déficit de paix, eh bien, il pourvoit en paix. Gloire à Dieu. Dans tous les domaines, Yahvé Jiré, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Il guérit. Mais s'il guérit, et si tu en es persuadé, alors tu jouis de la guérison qu'il opère dans ta vie. Amen. C'est pourquoi la connaissance de Dieu ne doit pas rester théologique et abstraite, mais elle doit produire en moi une vie. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et la vie éternelle, c'est pas seulement la vie qui finit jamais. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. La vie éternelle, c'est la guérison. Amen, c'est la victoire. C'est la mise au large quand je suis oppressé par l'anxiété. Eh bien, si je connais Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, je vis sa guérison. Oui ou non? Hein? N'ayez pas peur, c'est pas grave, c'est un parasite qui se balade. Quand il sera fatigué, il ira se coucher. Hein? Yahvé Rapha, est-ce que tu connais Yahvé Rapha? Et puis il y avait Nissi, l'Éternel ma bannière. Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Oh là là, gloire à Dieu. Et la paix Shalom, c'est la paix débordante, une plénitude de tranquillité, de calme. C'est la paix totale. C'est la paix totale. C'est pas la paix chimique d'une molécule, un médicament administré par une ordonnance. Non, c'est Yahvé Shalom. Tel que l'histoire de l'Église nous le démontre, lorsque des chrétiens sous l'Empire romain allaient en convoi dans les arènes en chantant des cantiques, ils chantaient des cantiques en allant dans les arènes, ils savaient que des fauves affamés allaient les déchiqueter, mais eux, ils chantaient des cantiques. Ça, c'est miraculeux, hein. On vit le miracle. Gloire à Dieu. C'est la paix de Dieu. Dans une prison, à l'époque du communisme pur et dur, dans une prison, il y avait un prédicateur de l'Évangile qui ne pouvait pas s'empêcher de parler de Jésus aux prisonniers. Mais les sentinelles, les gardiens, étaient farouchement opposés, sauf s'ils acceptaient qu'en contrepartie du témoignage qu'ils autoriseraient à cet homme d'apporter, lui acceptait un tabassage. On te donne 10 minutes pour parler de Jésus et on te tabasse 10 minutes. Et il a accepté. Il a accepté. Pendant 10 minutes, il parlait de l'amour de Dieu. Les prisonniers étaient bouleversés aux larmes et à salut. Après, il venait vers les gardiens et qui le brutalisaient sauvagement. Et dans un livre où son témoignage est apporté, une fois, après le tabassage, il reprend un peu ses esprits. L'œil tuméfié, la figure déformée, et il dit au prisonnier, j'en étais où au fait? Et il reprend son témoignage, et il reparle de Jésus et de l'amour de Jésus. Ça, c'est du miracle, c'est le miracle, mais nous pouvons le vivre nous aussi. C'est Yahvé Shalom, Yahvé Roi, notre berger, Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Donc il y a ce diamant aux multiples facettes, et j'aurai toute ma vie chrétienne terrestre, mais aussi toute mon éternité au ciel, pour m'émerveiller de cette découverte de la personne merveilleuse de notre Dieu, le nom de notre Dieu. Il y a tellement de versets qui auraient pu être cités, mais je vous mentionne celui-ci parce que je crois qu'il va être une réponse de Dieu à quelqu'un ce soir. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, 10. Et quelqu'un peut-être a besoin ce soir de venir trouver la sécurité et le refuge dans le nom de l'Éternel. Ce nom merveilleux qui a donné au petit adolescent David de courir contre Goliath en lui disant « Tu viens vers moi avec ton javelot, ta lance, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel !» Ouh là là, quelle autorité, quelle certitude! Eh bien, c'est David qui a gagné. Amen. Le nom de notre Dieu. C'est pourquoi la Bible nous conseille très vivement de ne pas prendre en vain le nom de l'Éternel. C'est quoi prendre en vain le nom de Dieu? C'est prononcer son nom sans réaliser toutes les richesses qui s'y trouvent. C'est donc prononcer un vocabulaire religieux, traditionnel, de formule, sans réaliser les richesses spirituelles qui sont contenues dans le nom de notre Dieu. Ce soir, nous tous, nous sommes au bénéfice du nom de Jésus, du nom du Dieu de notre salut. Et dans ce nom, il y a toutes les richesses nécessaires qui se déversent dans la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors voilà ce qui se passe. C'est que dans ce passage particulier, alors qu'Abraham revient d'une belle victoire, le roi de Sodome, l'ennemi, est en marche, mais le roi de paix, Melchisédek, intercepte, il arrive d'abord et il bénit Abraham. Et de quelle manière? En lui révélant une nouvelle facette du nom de Dieu. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon. Cette facette du nom de Dieu, Abraham ne la connaissait pas encore. Et il la découvre là, dans cette séquence très intense où Melchisédek le rencontre. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dans ce texte, à trois reprises, le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut. Donc Dieu est en train de révéler à Abraham un nouvel aspect de sa personne qui est en rapport avec sa position élevée, le Dieu très haut. Alors, ce n'est pas une question d'altitude, hein, c'est une question d'autorité. Notre Dieu, c'est le Dieu très haut, et il n'y a aucune autorité qui soit plus élevée que lui. Amen. Et j'ai tellement besoin qu'il me révèle profondément cette dimension de sa personne. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Donc, toute entité lui est inférieure. Amen. Ça, c'est la position à laquelle la foi nous conduira toujours. Vous savez, le centenier romain qui avait son serviteur mourant à la maison, il envoie un messager vers Jésus. « Seigneur Jésus, viens vite, mon serviteur est mourant. » C'est le message qui lui a été transmis. Et Jésus dit, « Mais j'irai et je le guérirai. » Et le centenier répond, il répond, « Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais là où tu es, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Sinon, c'est ognouf. Et quand je dis à l'autre, fais cela, il le fait. Et Jésus a admiré la foi de cet homme parce que sa foi lui avait fait comprendre la notion de l'autorité. Eh bien, celle de notre Dieu est supérieure à toute. Il est le Dieu très haut. Aucune autorité n'est supérieure à la sienne. Et en parlant de Jésus lui-même, la Bible nous dit que Dieu l'a élevé au-dessus de tout ce qui peut être nommé, afin que, au nom de Jésus, quelques genoux fléchissent. Oui ou non? Tous les genoux. Et pour voir si vous étiez là. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y a aucune exception. Au nom de Jésus, tout genou fléchit obligatoirement et notamment toutes ces entités qui veulent te troubler, te perturber, te faire vaciller dans tes convictions, dans ta foi, ces autorités malfaisantes fléchiront immédiatement leurs genoux à la seule invocation du nom de Jésus. Amen. C'est le Dieu très haut. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, si nous connaissons vraiment El Elyon, le Dieu très haut, ça va changer nos prières. On va prier différemment. C'est vrai? Nos prières cesseront d'être un inventaire de tout ce qui ne va pas. Parce que ça mène pas très loin. Hein. Quand on fait la liste, tu vois Seigneur, cette semaine encore, il y a ça, et on fait la liste. Et il en faut hein, du papier pour énumérer tout ce qui ne va pas. Et puis brusquement, Dieu nous révèle son nom. Il nous révèle qui il est. Le Dieu très haut. Et ce que j'aime chez Abraham, c'est que immédiatement, il est passé aux travaux pratiques. Parce que quand le roi de Sodome est enfin arrivé vers Abraham, il lui a fait un deal diabolique. Il lui a dit, donne-moi les hommes, et moi je te laisse les richesses. Je te laisse les richesses. Quand le diable nous propose de nous enrichir, il faut être très, très vigilant. Il arrive, et immédiatement, le nom de Dieu que Melchisédek, lui, a révélé il y a un instant, Abraham l'utilise. Et il répond à ce roi de Sodome, il lui dit, béni soit le Dieu très haut, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil. Alors pour être complet, la réponse d'Abraham est la suivante. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Il vient de rencontrer le Dieu très haut, d'en découvrir l'autorité suprême et souveraine. Immédiatement, ce sont les travaux pratiques. Quand l'adversité vient à ta porte, utilise par la foi les richesses que tu as découvertes, et notamment dans l'autorité suprême et souveraine de ton Dieu. Utilise-le, alléluia, et prie avec cette prière imprégnée de la certitude qu'à l'invocation du nom de ton Seigneur, tout genou fléchit. Gloire à Dieu. Rien ne peut ainsi résister à l'autorité du Seigneur. C'est ainsi que Dieu veut nous faire progresser en en augmentant notre connaissance de sa personne. Alléluia. Moi, j'ai soif de le connaître mieux. Gloire à Dieu. Et j'ai soif d'être plus qu'un auditeur qui stocke des connaissances bibliques, mais j'ai soif que toutes mes connaissances bibliques alimentent la santé de ma foi, augmentent les performances de ma foi. Alléluia. Quelqu'un peut-être est entravé dans sa progression spirituelle parce que depuis un certain temps, depuis trop longtemps, l'adversaire a trouvé ton point de fragilité et là, il te bloque et il annihile tes efforts de bonne volonté et tu fais du surplace. Eh bien, ce soir, découvre que ton Dieu, c'est le Dieu très haut et que son autorité engendrera immédiatement un miracle libérateur dans ta vie. Ne te laisse plus bloqué, impressionné, effarouché par tes combats, mais découvre le Seigneur, connais-le mieux, et plus tu le connaîtras, et plus ta foi sera une foi pleine d'autorité. Alléluia, que Dieu soit béni, que le Seigneur nous aide, amen, et que notre vie spirituelle connaisse un développement, un épanouissement. Moi, je veux progresser avec le Seigneur. Et vous? Je vais aller de l'avant, tout en le remerciant pour le chemin parcouru, mais j'ai soif de vivre encore des aspects non explorés de sa puissance, parce que on n'en est que au hors d'œuvre avec le Seigneur. Il y a encore des choses merveilleuses à vivre. Gloire à Dieu, amen, dans ta vie personnelle, au sein de ta famille, dans ton cercle intime, mais dans ton église et dans ton quotidien, que la gloire de Dieu se manifeste. Amen, alléluia, on va terminer.